Bonjour à tous, bienvenue à tous nos auditeurs pour ce nouveau podcast de l'Association française de l'eczéma. Je m'appelle Stéphanie Merrand, je suis la fondatrice de l'association. Dans ce nouvel épisode, l'eczéma dans la peau, nous souhaitions mettre en valeur un tout nouveau projet collaboratif. Ce projet nous a permis de travailler sur une étude publiée spécialement pour le printemps des maladies inflammatoires chroniques de la peau. Dans cette nouvelle aventure, nous étions aux côtés de quatre autres associations. France Psoriasis, Solidarité Verneuil, France Acné Ado Adulte et l'Association française pour la recherche sur l'hydrosadénite. Ces associations ont choisi d'évaluer le stress ressenti chez les patients souffrant de dermatoses inflammatoires chroniques. L'étude a été conduite par le Dr Charles Taïeb de décembre 2020 à février 2021, chez plus de 7273 patients souffrant d'eczéma, de psoriasis, d'acné et de la maladie de Verneuil. Ce qui constitue le premier échantillon jamais compilé autour de ces quatre maladies cutanées chroniques inflammatoires. Pour appréhender le niveau de stress global de chaque patient, nous avons utilisé une échelle validée par la communauté scientifique qui permet de mesurer l'importance avec laquelle des situations de la vie sont perçues comme menaçantes, c'est-à-dire non prévisibles, incontrôlables et pénibles. Toujours dans cette étude, la qualité de vie de chaque patient a également été mesurée. Pour ce podcast, réalisé avec le soutien institutionnel de Léo Pharma, nous avons souhaité inviter les parties prenantes de ce projet unique en son genre. Dans ce premier épisode, nous allons vous parler des conséquences du stress chez les patients atteints de dermatite atopique avec le docteur Charles Taïeb qui nous a aidé à mettre en place cette étude, le professeur Marie-Alette Richard, marraine de l'événement, qui est également dermatologue à Marseille, et Marie Chenet, qui est neuropsychologue. Bonjour docteur Charles Taïeb.
Bonjour Stéphanie.
Pouvez-vous nous en dire plus sur cette étude ?
Cette étude est une initiative des cinq associations de patients que vous venez de décrire et je pense que c'était une façon pour les associations de patients de reprendre en réalité, entre guillemets, le pouvoir sur les datas, sur les données, sur leur vécu et de pouvoir réunir des données et de partager ensuite ces données avec le plus grand nombre.
Et pour quelles raisons avez-vous souhaité accompagner ce projet impulsé par ces cinq associations de malades ?
De toute façon, parce que quand cinq associations viennent me voir et me disent « on aimerait avoir un coup de main méthodologique » parce qu'aujourd'hui, mettre en place une étude, c'est compliqué. Hein. Il y a un comité d'éthique, il faut écrire un protocole, il faut écrire le questionnaire, il faut faire valider ce questionnaire, il faut faire valider le protocole, il faut le soumettre au comité d'éthique, il faut avoir un DPO, il faut avoir un certificat de conformité MR003. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et donc, je peux comprendre que des associations de patients n'aient pas ces moyens, entre guillemets, administratifs et réglementaires pour mettre tout ça en place. Et donc, quand ils me demandent un coup de main pour le faire, eh ben, je le fais avec plaisir.
Merci, Charles. Alors, en tant que spécialiste des études, en quoi ce projet est unique ?
Ce projet est unique parce que déjà, le fait que cinq associations mutualisent leurs efforts et leurs moyens pour administrer un même questionnaire au même moment, c'est unique. Et le résultat est unique puisque la mutualisation des moyens a permis de réunir plus de 7000 réponses. Et donc, 7000 réponses de patients ayant une maladie de peau, une de ces quatre maladies de peau, c'est comme si on interrogeait un échantillon de Français de près de 100 000 patients.
Et est-ce que vous avez des résultats de l'étude qui vous ont le plus étonné ?
Oui, moi, il y a un résultat quand même qui m'a étonné si on parle de l'eczéma en particulier, mais c'est vrai aussi pour d'autres, hein, mais en tout cas pour l'eczéma, c'est qu'on a un conjoint sur 5, 18 %, et ça monte à 23 ou 25% dans les dermatites atopiques sévères, qui est persuadé que la dermatite atopique est contagieuse. C'est-à-dire que le conjoint qui vit avec le patient, qui vit au quotidien avec le patient, pense que la dermatite atopique est contagieuse. Et je pense que ça doit créer un climat dans le couple et dans la vie qui ne doit pas être facile à gérer. Et moi, ce chiffre-là nous a vraiment interpellés. Et c'est d'ailleurs, ça nous a donné l'idée d'une étude qui s'appelle Atopie Family et à laquelle Marie-Alette est également associée.
Selon vous, pourquoi il est important pour les associations de réaliser des études de qualité de vie ?
De toute façon, c'est important de réaliser des études tout court. Le problème auquel sont confrontées les associations, quand elles participent à une étude initiée par un industriel, c'est qu'elle n'est pas maître du calendrier des résultats. Parce qu'évidemment, l'industriel, lui, souhaite publier les résultats sous format scientifique, dans une revue scientifique, avant que l'association puisse en parler. Résultat ? L'association peut être amenée à parler des résultats d'une étude 12 à 18 mois après parce que le temps de publication n'est pas le temps des résultats. Donc, c'est très important que les associations puissent être maîtres du calendrier et donc mettre en place des études et pouvoir profiter des résultats assez rapidement et non pas attendre des délais. Alors, 18 mois, c'est peut-être caricatural, mais au minimum, souvent, c'est entre 6 et 12 mois d'attente avant de pouvoir publier dans une revue scientifique.
Et pour un patient lambda, qu'est-ce que ça peut lui apporter ?
Le patient s'exprime, hein. On est dans des études en vie réelle, on est sur du vécu, sur du ressenti. Alors évidemment, on peut critiquer, hein. Ce n'est pas du scientifique au sens où on l'entend habituellement, mais aujourd'hui, la notion de patient-centricity, la notion de burden, du fardeau du patient, la notion de comment le patient vit et réagit par rapport à sa maladie est très importante. Le fait que le patient, alors évidemment, il n'y a que 7000 patients qui ont répondu à ce questionnaire, mais le fait qu'ensuite ces résultats puissent être partagés avec l'ensemble des patients, je pense que les patients se sentent moins seuls, se sentent mieux compris et se sentent peut-être aidés de savoir qu'il y a d'autres patients qui vivent les mêmes problèmes qu'eux.
Oui, c'est vrai que chaque association a aussi communiqué les résultats auprès de la presse.
Bien sûr.
Il y avait aussi tout un soutien aussi côté voilà. Relations
presse. Et puis, pour être honnête, hein, c'est que la générosité, en réalité, le partenariat qu'on a eu avec les partenaires de ce projet, hein, dont Léo est partenaire également, nous a permis d'avoir les moyens d'avoir et de publier une page dans Le Monde qui a eu un retentissement important. Hein, et je trouve que Le Monde a très bien résumé l'étude. C'est « Tous unis pour leur peau ».
Très beau slogan.
Ah oui, on aurait pu le trouver, hein.
Merci beaucoup Charles pour ces explications. Je suis ravie maintenant d'accueillir le professeur Marie-Alette Richard qui a déjà été introduit par Charles. En tout cas, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir Marie-Alette sur notre chaîne de podcast de nouveau. Vous aviez déjà tenté l'expérience avec nous. Et pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes donc dermatologue à l'hôpital de la Timone à Marseille et vous êtes très investi dans ce projet du printemps et nous avions envie de vous poser quelques questions concernant cette étude. Bonjour Marie-Alette.
Bonjour à tous et merci à Charles de ces gentils mots. C'est vrai que j'ai un intérêt particulier pour cette partie-là un peu de notre métier aussi, qui est celle de défendre les patients parce que c'est pour eux qu'on est là, c'est pour les soigner, c'est pour essayer d'améliorer leur quotidien. Donc, tout ce qu'on peut faire dans ce sens, je pense, est crucial et on est là pour ça. Voilà.
Et on vous en remercie de très fort, Marie-Alette. Donc, pourquoi cette étude vous a interpellée lorsque les associations sont venues vous la présenter ?
Parce qu'en fait, c'est toujours intéressant de transposer une réponse individuelle, le discours que vous avez d'un patient en face de vous à la consultation, a finalement quelque chose qui prend une échelle qui est beaucoup plus importante, qui est celle finalement de patients et d'associations de patients, puisque ça se transpose en milliers finalement de réponses et qui souvent convergent dans le même sens. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant.
Est-ce qu'il y a un chiffre concernant la dermatite atopique qui vous a surprise ?
Charles a déjà parlé tout à l'heure du fait que les conjoints estimaient que quelquefois la dermatose était contagieuse. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui mérite qu'on s'y attache, qu'on s'y épique, sur lesquels on doit travailler parce qu'il faut rassurer. Et dans les autres chiffres, je pense que cette étude était à multiples facettes puisqu'elle mesurait à la fois la qualité de vie, donc le ressenti sur la contagiosité, sur la vie dans le couple, mais également aussi sur l'état de stress, la perception du stress pour les patients, c'est-à-dire la façon dont les individus mesuraient finalement leur adaptabilité à des situations de vie qui étaient perçues comme menaçantes, incontrôlables ou pénibles. Moi, je suis très étonnée de voir que lorsqu'on appelle ça finalement l'état de stress, qui correspond au fait qu'il y a une mauvaise adaptabilité au quotidien, par exemple dans l'eczéma, 80% des patients qui ont des eczémas sévères se considèrent avec des échelles qui sont validées, hein, qui sont reconnues, qui permettent justement la comparaison, s'estiment en état de stress non maîtrisé. Ce qui est quand même colossal. Et pour les patients qui ont un eczéma léger, par exemple, c'est quand même la moitié d'entre eux aussi. Donc, cette espèce de vécu et de menace finalement permanente que fait peser la dermatose sur le quotidien et le retentissement que ça a finalement dans la façon dont ils s'adaptent ou qu'ils ne s'adaptent pas à ce qu'on vit tous les jours est quand même quelque chose de frappant.
Et par rapport à tout ça, est-ce que le stress est un sujet qui est facilement abordé lors d'une consultation en dermatologie ?
Le stress en lui-même, comme je l'ai dit, a différentes facettes et c'est à nous de guider l'interrogatoire, Mais clairement, on peut très vite demander s'il y a un retentissement sur le sommeil, donc une fatigue qui peut interférer sur le stress d'une pathologie donnée, un retentissement sur l'adaptabilité au travail ou sur la vie au quotidien. Donc oui, on peut l'aborder de plusieurs facettes différentes.
Les patients vous en parlent pas d'eux-mêmes peut-être aussi?
Pas spontanément, parce que d'abord le temps de consultation dédié, il est relativement court et il y a beaucoup de choses à faire, c'est-à-dire qu'il faut non seulement traiter, expliquer, mais c'est vrai qu'il faudrait essayer de garder encore un peu plus de temps pour cet aspect-là des choses et prendre le temps d'écouter justement le vécu des patients, parce que c'est quand même ça qui va guider les choix thérapeutiques et la négociation thérapeutique qui va derrière. Il faut peut-être encore plus, je l'avoue, hein, guider l'interrogatoire pour recueillir ces données-là.
Peut-être avez-vous des conseils pour le patient qui puisse mieux préparer sa consultation pour peut-être aborder les sujets peut-être un peu plus tabous, un peu plus difficiles à aborder avec son dermatologue avant sa consultation?
Souvent, en fait, on voit déjà que les patients viennent avec une petite liste sur un papier parce qu'ils ne veulent pas oublier des choses. Et je trouve que c'est quelque chose qui est tout à fait efficace de préparer une liste de questions pour pouvoir, nous y répondre pas par pas, parce que ça nous permet également de rebondir quelquefois. Et la question du patient peut nous inciter aussi à poser d'autres questions derrière, parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui, peut-être même si ce n'est pas dit, peut transpirer par derrière. Donc, je pense que c'est un bon moyen de préparer sa liste à l'avance, mais pourquoi pas sur un papier ou sur son téléphone, noter ce dont on a envie de parler à son médecin. C'est une façon, finalement, d'amorcer la conversation et d'aller sur des choses qui sont quelquefois plus difficiles à aborder.
J'ai une dernière question, et pas des moindres. Quels sont, selon vous, les enjeux du parcours de soins en dermatologie à l'aube 2022?
C'est une question qui est compliquée. Parce que les enjeux du parcours de soins, c'est bien entendu de faciliter l'accès, surtout pour les maladies inflammatoires chroniques, au dermatologue, parce que c'est lui qui a la place, c'est lui qui est l'expert dans la gestion de ces pathologies. Beaucoup de maladies de peau courante peuvent être gérées par le médecin généraliste, le pédiatre, ou même quelquefois se gèrent toutes seules par le patient ou par un pharmacien. Mais les maladies inflammatoires chroniques ont ça de particulier que, comme elles sont chroniques, d'abord il va falloir établir un lien de confiance et une relation qui va être durable dans le temps, expliquer les traitements possibles. Et ce qui doit être optimisé dans le parcours de soins, c'est le fait qu'on facilite l'accès justement de la consultation au dermatologue dans un contexte qui est très compliqué actuellement, puisqu'on se remet à peine de l'épidémie de la Covid, et puis deuxièmement dans un contexte dans lequel la démographie médicale actuelle est très préoccupante, où beaucoup de dermatologues et beaucoup de médecins en général arrêtent leurs activités, et donc du coup il est compliqué de répondre à toutes les demandes. Et le parcours de soins, c'est peut-être aussi imaginer des aides à la prise en charge des patients en dehors des médecins, par des infirmières de pratique avancée, par l'éducation des pharmaciens dans les officines pour qu'eux-mêmes aient un rôle de conseil, et que finalement on coordonne mieux ce parcours de soins.
Tout un programme. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Marie-Alette de nous avoir rejoints sur notre chaîne de podcast, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Marie-Alette. À bientôt.
À très bientôt.
Bonjour Marie Chenet, vous êtes clinicienne spécialisée en neuropsychologie et vous avez apporté votre expertise pour ce projet autour du stress.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que c'est Marie, le stress ?
Alors le stress, on va parler de stress lorsque la peur, qui est une émotion qui est à la base positive puisqu'elle nous permet de nous adapter et puis d'adapter notre comportement dans une situation où il pourrait y avoir danger. On parle de stress lorsque justement cette peur n'est plus adaptée, par exemple lorsqu'il n'y a plus de source de danger potentiel mais que notre cerveau s'imagine que cette source est toujours là, et du coup on parle de stress lorsque cette peur ne devient plus adaptée.
Comment on peut préciser d'où vient ce stress ?
Alors, ce stress, il peut venir de plusieurs choses. Il peut venir d'un événement extérieur, par exemple, quelque chose qui est en train de nous arriver. Il peut venir également de pensées. Il y a des pensées qui peuvent nous stresser. Le fait de s'imaginer, par exemple, des choses qui nous font peur, ça peut élever notre niveau de stress. Et puis le stress, il peut aussi venir en réponse au comportement d'autres personnes. Par exemple, lorsqu'on est en présence de personnes stressées, notre stress peut augmenter également.
On entend souvent, si tu étais moins stressée, tu n'aurais pas tes problèmes de peau. Cela n'est vraiment pas simple pour les malades de répondre à cette affirmation, car c'est vrai que ça va au-delà du stress, notre maladie. De plus, si le moral n'est pas au beau fixe à cause de la peau, bah, on peut vraiment être touché par cette affirmation. Mmh. Est-ce que Marie, vous pourriez répondre à cette question ? Est-ce vraiment dans notre tête, le stress ?
L'origine du stress vient du cerveau, effectivement, mais vient répondre à des stimuli, encore une fois, qui peuvent être internes, soit nos pensées, soit externes, une source de stress externe. Par exemple, si on se retrouve avec une surcharge de travail, ça peut faire augmenter notre stress. Maintenant, c'est pas quelque chose que l'on maîtrise aussi facilement que ça. Si c'était le cas, plus personne ne serait stressé, en tout cas sur un laps de temps très long. Donc le stress, c'est pas quelque chose qu'on décide d'arrêter comme ça. Ça s'apprend, on apprend à gérer son stress. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de si simple que ça.
Est-ce que vous pensez que les personnes souffrant d'eczéma, de dermatite atopique, elles sont plus stressées que le reste de la population ?
Oui, certaines personnes souffrant de dermatite atopique sont plus stressées que la moyenne, on va dire, de la population. Il y a plein de facteurs de stress différents, mais les personnes souffrant de dermatite atopique peuvent présenter des facteurs de stress liés à la maladie en elle-même. Le fait qu'elle soit imprévisible, en tout cas que les manifestations physiques peuvent être imprévisibles, ça peut être un facteur de stress. Les réponses des personnes aux alentours peuvent être aussi facteurs de stress. Lorsqu'on demande, par exemple, à une personne présentant une dermatite atopique de ne pas se gratter, ça peut être facteur de stress. Ou de ne pas stresser, là aussi, c'est un facteur de stress. Donc, c'est comme si on disait, surtout ne pense pas à un éléphant rose. Évidemment qu'on va se mettre à penser à un éléphant rose. Le stress, ça peut toucher absolument n'importe qui dans la population. Les personnes présentant une dermatite atopique ont des facteurs de stress que d'autres personnes n'ont pas.
C'est vrai que l'imprévisibilité de la maladie, ça peut être vraiment très compliqué à gérer au quotidien. On va se coucher le soir, la peau est top, et puis le matin, se réveiller avec des plaques un peu partout. Du coup, à l'association, on travaille beaucoup sur les activités sportives de détente, comme la danse-thérapie, l'art-thérapie, pour tenter un petit peu d'aider le patient qui nous suit à reprendre le contrôle. Et surtout, on se dit que si le moral va mieux, bah, l'état de la peau aussi ira mieux. Quels sont, vous, vos conseils pour maîtriser ce stress ?
Alors déjà, ce que vous mettez en place à l'association, effectivement, c'est des choses très positives, puisque du coup, la personne se sent aussi un peu plus actrice, un peu plus proactive. Déjà, ça permet aussi... d'augmenter en termes d'estime personnelle et d'avoir la sensation de mieux gérer son stress. C'est un premier conseil, effectivement, d'être actif et de surtout pas se replier sur soi-même. Et puis, lorsqu'on souffre de stress, pas hésiter aussi à aller en parler. Ça ne doit pas devenir un sujet tabou. Il faut vraiment pouvoir en discuter. Alors, soit avec des personnes qui nous sont proches, des personnes qui nous connaissent bien et qui éventuellement ont pu aussi observer ce qui nous détendait, ou lorsque cela n'est pas possible ou ne suffit plus, éventuellement aller en discuter avec un professionnel de santé qui pourra vous donner des petites pistes à mettre en place au quotidien, des petites astuces pour mieux gérer votre stress.
Puis c'est vrai qu'on peut se faire aider sans avoir l'impression qu'on est fou ou folle.
Oui, tout à fait.
Bah, c'est aussi une manière de se soigner aussi, se soulager aussi de quelques valises parfois en discutant avec un professionnel.
N'hésitez pas effectivement à aller discuter du stress et puis de l'effet du stress aussi sur vos comportements et sur vos relations aux autres, parce que si éventuellement ce stress-là vous empêche, par exemple, d'entrer en contact avec d'autres personnes, c'est important effectivement de le prendre en charge. Pas se sentir coupé du monde et ne pas affronter ça tout seul surtout.
Tout à fait. Merci beaucoup Marie de nous avoir rejoints sur notre chaîne de podcast.
Et bien de rien, merci à vous.
Un grand merci à tous nos intervenants pour ces échanges riches et d'être autant moteurs dans ce projet collaboratif. Si vous ne savez pas comment gérer votre stress, rassurez-vous. L'Association française de l'eczéma vous accompagne en vous proposant régulièrement des lives sport et détente sur nos réseaux sociaux, ainsi que des articles ciblés sur notre site associationeczema.fr. À bientôt pour un second podcast dédié à cette étude avec les résultats concernant le psoriasis et la maladie de Verneuil. À bientôt !